Françoise Trossard et la belle équipe en piste pour la récré littéraire. À l'affiche, un joli dimanche, suivi du petit Rémailleur illustré par Violaine Schwartz et Gérard Mordilla. Ensuite, Périphrase en folie et deux râleurs pour un pamphlet, Eva Almassi, Pascal Fioretto.
Quand c'est à votre tour d'être servi, vous prononcez avec une voix venue de nulle part, peut-être d'Europe centrale, la phrase fatidique. Mettez-moi trois de chaque et qu'on en finisse. C'est pour emporter.
Ensuite, l'inventaire des œuvres dont on a loupé la fin. Et retour aux impressifs japonais avec Véronique Brindeau, Hervé Le Tellier et Dominique Muller pour des exercices d'imagination autour de l'onomatopée Dolo Dolo, dont on trouverait la trace dans une première version de Carmen. Dominique.
L'amour est enfant du dilemme. Je vais ramer, ramer à quel émoi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Dolo, dolo, je resterai debout. Dolo, dolo.
On ne se quitte plus jusqu'à 13h58. Et nous sommes ravis de passer ce dimanche en votre compagnie. Merci de votre écoute fidèle. Pour le rattrapage, direction franceculture.fr après l'émission, le téléchargement ou podcast pendant un an, la réécoute pendant 1000 jours. Et pour bien raconter ce jour si différent des autres, le dimanche, nouvelle série, épisode 5, déjà, le joli dimanche à la manière de... par Lucas Fournier.
Le joli dimanche de Monsieur Bournefeuille, selon Labiche.
Ah!
Ah, Christi, ce haricot de mouton, il n'était pas piqué des hannetons. Une table sur la terrasse, un château Luscru 87, la cuvée du président Jules Grévy, et le haricot de mouton que m'a fait ma bonne, une bretonne que j'ai fait venir d'Arras, travailleuse la bretonne, et pour rien, pensez, j'y donne 6 sous, une affaire, et son haricot. Il y avait Boussagol, le fabricant de meubles anciens, et sa femme. Et puis ma fille avec son imbécile de mari, mon gendre, Gachignard, qui se présente aux élections. Et le voici mon Gachignard qui se lève pour un toast aux prolétaires. Madame Boussagol, entendant ça, me fait un clin, un petit clin. Et elle se resserre de haricots de mouton. Et je sens une petite bottine sous la table, tout contre la mienne. Et hop, tout à trac, voilà Gachignard qui tourne de l'œil. On l'emmène. La fuite du prolétaire et le soulagement du dimanche. Alors, nous allons sur les transatlantiques pour le café. Au passage, je pinsouille le popotin de Madame Boussagol. Elle me fait « Je l'ai bien aimé, votre haricot, Monsieur Bournefeuille. À dimanche prochain. Ah, le haricot de mouton. Ah, le joli dimanche.
» À noter sur vos tablettes. Le samedi 4 octobre prochain, nous serons à Concarneau pour une soirée de jeux des papous dans la tête dans le cadre du Festival de mémoire maritime. Vous avez rendez-vous avec nous au CAC, le Centre des Arts et de la Culture, avenue de Bougainville, à 19h. À mes côtés, pour jouer avec la mer, la plage, les bigorneaux, Victor Hugo, Chateaubriand, j'en passe, Dominique Muller, Hervé Le Tellier, Jeanne Carillon, Patrice Caumont et Lucas Fournier. Et vous, eh bien, vous êtes invités. L'entrée libre et gratuite dans les limites des places disponibles. Samedi 4 octobre, 19h, tous au CAC de Concarneau. Rien à voir avec le CAC 40. Retrouvez les renseignements à la rubrique « Vie du club des papous dans la tête » sur franceculture.fr et sur notre page Facebook où vous pouvez nous rejoindre entre amis. Et pour les papous du jour, place au petit Rémailleur illustré. Un dictionnaire différent de tous les autres, d'abord parce que c'est le nôtre, ensuite parce que toutes les définitions y figurent sous forme de poèmes. À dire ou à chanter, c'est plus facile de mémoriser ainsi le sens des mots. Un rédacteur libre de traiter les mots selon son cœur. Un contrôleur pour vérifier que tous les sens y sont. La séance est ouverte avec 2 substantifs à l'étude.
Chemise, pantalon,
Violaine Schwartz, c'est la première fois que vous jouez à ce jeu du petit Rémailleur illustré.
Oui.
Et ben, j'en suis très contente, je vous ai offert un mot qui est pas mal, qui est un mot riche, qui est le mot série. Hein. Et je vais demander à Gérard Mandia, parce que quand même c'est un homme de télévision. Alors évidemment, dans séries, il n'y a pas que les séries télévisées, il y a aussi les séries télévisées. Donc vous allez contrôler Violaine Schwartz sur la série.
Je tourne les pages et je cherche les séries.
La voilà, la voici. Et comment avez-vous traité la série Violaine ?
Ben, j'en ai fait une chanson.
Ah oui, sur quel air ?
Sur l'air des Cornichons.
Ah,
Cornichons de Nino Ferrer, voilà.
Oui, très très bien. Vous avez besoin d'un choriste, il y a Hervé Le Tellier.
Je suis sur les starting blocks.
Ça y est, vous êtes à la série, Gérard ?
Oui, oui, j'y suis, ça fait un quart de page, c'est raisonnable.
Eh bien, on écoute Violaine. Vous voulez peut-être nous le lire d'abord ?
Voilà. Mm-hmm. J'ai préparé une série de séries à chanter, un panier de séries hors série. Moi, j'aime bien les séries, j'aime les entasser, à l'infini et pour la vie. Les séries fleuves, les séries B, les séries noires, séries télé, séries de clés, loi des séries. Séries de questions, séries d'honneur, de concertos et de malheurs, de casseroles, de cornichons. En tête de série, il y a The Film The Wire. Quand j'étais petite, c'était Dallas. Mais j'aime encore plus les séries dodécaphoniques et harmoniques et en musique. Nouvelles séries, mathématiques, géométriques, séries entières et numériques, ou divergentes ou convergentes. J'y comprends rien et ça me donne faim. Séries de veau, séries pilaf, séries au lait, séries auto, séries Paulin, c'est n'importe quoi. Fin de série.
Moi, j'aime bien séries au lait.
J'aime bien.
Beaucoup.
Ouais, c'est très bien.
Gérard Mandia, bon, ça a l'air très complet.
C'est rigolo.
C'est rigolo, oui.
On a oublié quand même.
C'est rigolo. Ah, oui.
C'est très complet, c'est quasiment exhaustif. Il y a la série noire, ce qui est magnifique. On aurait pu évoquer aussi la série rose, qui est assez belle.
Ah, oui,
et parlant des fins de série, il faut aussi parler des têtes de série. Et puis, il y a quand même un petit manque qui me gêne, parce que je trouve que c'est extrêmement important dans les séries. C'est la série des alcènes de formule C2H2. C'est une série radioactive. Je pense que Lucas Fournier est d'accord avec moi qu'on peut pas.
C'est important d'en parler.
C'est important d'en parler. Voilà, on ne peut pas parler des séries sans parler de ça.
Est-ce qu'un grand écrivain contemporain ou pas a écrit sur la série ? Petite citation.
Eh bien, je cherche, mais je crois qu'il n'y a pas réellement de grand écrivain qui ait écrit sur la série. Il n'y a pas de citation dans le dictionnaire. Visiblement,
non.
On était dans les fins de série et donc il n'avait plus rien à fournir.
Ah bon ?
Alors peut-être il y a juste une petite chose de Huysmans qui dit catégorie, le classer dans la série des monomanes. Mais ce n'est pas particulièrement extraordinaire.
Bah, c'est pas mal non plus. Hein.
Oui, c'est pas mal.
C'est toujours Huysmans, il y a toujours une bonne base.
Il y a Caroline Seyri aussi, hein, qui est une très bonne auteure.
Bon, alors, c'était un exercice parfait. Maintenant, on va le savourer en chanson, Violaine.
Mmh.
Hein ? Donc, sur les cornichons de Nino Ferrer.
J'ai préparé une série de séries à chanter, un panier de séries hors série, tin, tin, tin. Moi j'aime bien les séries, j'aime les entasser à l'infini, ta 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 ta, et pour la vie, pam pam pam. Les séries fleuves, les séries B, les séries noires, séries télé, séries de clés, loi des séries, pam pam pam. Séries de questions, séries d'honneur, de concertos et de malheurs, de casseroles, de cornichons, pam, pam, pam. En tête de série, il y a The Film The Wire. Quand j'étais petite, c'était Dallas, ta, 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 ta. Moi, j'aime encore plus les séries dodécaphoniques et harmoniques, ta, 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 et en musique, ta, 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 ta. Nouvelle série, mathématiques, géométriques, séries entières et numériques, ou divergente, ou convergente, tin, 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 j'y comprends rien et ça me donne faim. Série de veau, série pilaf, série au lait, série auto, série Paulin, c'est n'importe quoi. Fin de série, tin, 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 tin.
Bravo.
Bravo.
Un peu les instruments, mais bon.
Là, on a eu un bon exemple d'une suite de 12 demi-tons de la gamme chromatique utilisée comme unité dans la musique atonale dodécaphonique. Je voulais le souligner.
Et ce sera le mot de la fin, Gérard.
Chemise,
deuxième mot au menu du jour de notre petit rimailleur illustré. C'est à vous de le traiter, Gérard Mordillat. Alors, vous enlevez votre costume douillé de contrôleur pour endosser celui de rédacteur. Et je vous ai confié le mot « poussière » à définir. Vous jouez avec la poussière.
Oui, je fais de la poussière, voilà, de la poussière en alexandrin.
Oui, très bien. Et vous serez contrôlé par Lucas Fournier, c'est un privilège. Il contrôle assez peu, Lucas Fournier, d'habitude.
Mais il contrôle très bien, c'est ça, c'est la qualité.
Est-ce que vous êtes à la poussière, Lucas Fournier, entre, dans le dictionnaire?
Entre poussier et entre poussiéreux, oui. Il y a la poussière.
Et voilà. Oui. Ça se présente comment dans le dictionnaire? C'est long, c'est court?
C'est un petit mouton.
Bien. Et chez Gérard, c'est une très longue, très belle définition versifiée.
Voilà, oui. J'ai réveillé le Victor Hugo qui est en moi.
Bouf.
Oh, combien de balais, combien d'aspirateurs qui sont partis joyeux pour mordre la poussière, se sont cassés les poils et brûlé le moteur, car plus elle est cachée, plus elle est meurtrière. Cette louve assassine déguisée en mouton, elle nous envahit tous, occupe notre terre, nous rend sales et poisseux comme de vrais cochons et fait d'un nid d'amour un vrai nid de poussière. Combien d'hommes de peine, combien de femmes fières, travaillant du plumeau, agitant leur chiffon, ont fini à genoux, le nez dans la poussière, humiliés et vaincus par ces grains d'un micron. Ô Etna, Stromboli, crachant le feu antique, à quoi cela sert-il qu'une matrone s'active, affronte ce tyran, la poussière volcanique, cette scorie est charbon, elle est radioactive. Certains voudraient qu'elle soit une poussière d'ange qui tombe quand il neige et blanchit tous nos toits. Mais, telle qu'en elle-même l'éternité la change, poussière et saleté, nous n'avons pas le choix. Et je ne parle pas des retombées cosmiques, il faut bien s'y résoudre. Avec elle, c'est fatal, monstre céleste sans armes, affreuse bombe atomique. C'est la crasse qui triomphe, même la neige est sale. Et si parfois, le soir, lorsque la nuit arrive, heureux, contemplatif, glissant dans l'étoile, le rêve nous conduit tout droit sur l'autre rive où le monde disparaît dans une poussière d'étoiles. Quand sera venue l'heure de notre grand âge, ami, quand nous aurons 100 ans et des poussières, quand il ne nous restera plus qu'un piètre radotage, hélas, nos corps divins tomberont en poussière. Sous les tapis d'Orient, sur les meubles jolis, cachés sous la literie au-dessus du buffet, nous serons assemblés, regroupés, réunis. Plus nus que le plus nu, nous serons sans effet. Livrés aux balais brosses, redevenus poussière, hygiène et propreté, ô fureur ménagère, chassés du paradis, nous connaîtrons l'enfer. Oui, poussière, nous serons le sale de la terre. N'y aurait-il personne pour prendre notre défense? Misérable poussière perdue dans la nuit noire, les vivants nous destinent, et c'est là leur vengeance, à la benne, aux ordures, aux poubelles de l'histoire.
Oh là là, non, y a plus rien à dire, hein. Nous serons le sale de la terre, c'est oui. Ça. C'est beau, c'est très très beau.
Et plus elle est cachée, plus elle est meurtrière. C'est magnifique.
Ouais,
on dirait du Bernanos.
Mais oui, mais on était tellement concentrés, certains, Patrice Caumont prenait des notes.
Ah oui, absolument.
Ouais. Oui. Bon, alors, je sais
pas.
Il y
avait une marque de plumeau qui s'appelait Bernanos, c'est-à-dire.
Est-ce que vous avez quand même eu le temps, Lucas Fournier, de consulter le dictionnaire où vous étiez tellement captivé par Gérard?
On a envie d'être vétilleux ensuite.
Ben non, ce serait mesquin. Une petite chose à dire.
Ses ailes de papillon l'empêchent
de
voler, de poussiérer.
De tousser.
Puisque c'est une toute jolie définition, là. C'est la poudre fine recouvrant l'aile des papillons.
La poussière.
La poussière.
Ah, oui. Très joli. Oui. Ouais,
ouais. Et on a entendu Hugo, alors je vais vous proposer Corneille. Mm-hmm. Nuage tourbillon de poussière, je l'ai vu tout couvert de sang et de poussière.
C'est très très bien. Est-ce qu'il a abordé l'allergie à la poussière?
Non, mais moi j'ai poussé pendant.
C'est pas un dictionnaire médical non plus.
Alors il y a quand même une petite remarque scientifique qu'on peut faire.
Oui, Hervé Letellier.
Sans la poussière, il n'y aurait pas de flocons, car le fractal qui s'agglomère autour de quelque chose, ce quelque chose, c'est la petite poussière dans l'air sur laquelle vient se greffer l'air glacé rempli d'eau qui forme le flocon. également.
Donc quand on se jette des flocons à la figure,
il y a toujours
un
peu de poussière. Tout
avec.
petit grain de poussière. Mm-hmm. C'est quand même beau de penser que sans poussière, pas de flocons. Mm-hmm. Et également, sans poussière, pas de bulle de champagne, puisque c'est toujours la petite poussière qui est dans le verre sur mm-hmm. lequel s'accroche l'endroit où d'où part la bulle. Si je ne sais pas, c'est.
Non. Qui est active.
Qui est active.
Excuse-moi.
Qui active. Qui active la bulle.
Il peut y avoir de la bulle dans un verre propre, mais moins.
Moins. Voilà.
Ah bon, mais c'est quand même, mais dans l'eau
c'est pas la poussière qui crée
aussi,
la
l'eau pétillante, le gaz carbonique se forme toujours sur un point un peu sale
dans
du verre.
Domaine restreint, mais qui quand même. Le bouchon.
Pour ceux d'entre nous qui irions dîner chez notre ami Hervé, ne nous étonnons pas de trouver les verres tels que tels qu'ils sont proposés.
C'est l'excuse. Je fais le maximum pour que vous ayez
pour se faire mousser
lorsque j'ouvre le champagne.
Quelque chose à ajouter, Hervé ?
Non, peut-être une citation de Frédéric Dard.
Oui.
C'était un type, il avait tellement pas de veines que s'il avait été aspirateur, il aurait été allergique à la poussière.
Und ein langer Johannes nimmt es auf der Grube, wenn es eine Kati im Wachsetag biegt, wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt.
Pinky Martini and the Fontraps. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Et si on jouait avec une petite phrase et Hervé Letellier, Jacques Vallée, Jacques Jouet. Et si on choisissait dans cette petite phrase trois noms communs. Si on les remplaçait, ces noms communs, par des périphrases, eh bien, on parlerait comme les précieuses de Molière. Un peu compliqué, les demoiselles, mais si imaginative. Et si nos trois écrivains papous jouaient à tour de rôle, la petite phrase dans laquelle les périphrases de chacun auraient trouvé place deviendrait une histoire d'une quinzaine de lignes. Alors, aurait-elle la même signification ? L'abus de périphrases permet-il la transmission du sens ou bien y aura-t-il détournement ? C'est Patrice Minet qui le dira à l'issue de « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Hervé Letellier, je vous ai gâté en vous destinant tout spécialement une phrase qui pourrait peut-être représenter une sorte d'idéal de bonheur. Vous lisez ?
Ma fiancée m'attend dans la maison. Elle brode au bord d'une petite fenêtre.
C'est joli, c'est simple, ça dit clairement ce que ça veut dire. C'est une phrase de qui, vous pensez ? C'est un poète. Enfin, c'est quelqu'un que vous aimez forcément bien, en plus.
Ah !
Oui.
Un poète ?
Oh. Apollinaire.
Non,
Prévert.
Rembrandt, non. C'est du Jean Tardieu. C'est dans Madrépore de l'architecte Tardieu. Imaginaire. Ma fiancée m'attend dans la maison. Elle brode au bord d'une petite fenêtre.
Oui,
Patrice Minet, entre cette phrase et vous, il y a Hervé Letellier, Jacques Vallée, Jacques Jouet, des êtres imaginatifs, féconds. Est-ce que cette phrase, vous retrouvez son sens dans ce qui vous a été passé ?
Je retrouve des éléments du sens, effectivement.
Oui.
En fait, je trouve que le travail qui a été fait a plutôt éclairci cette phrase de Jean Tardieu.
Ah bon ? Voilà. Non.
Parce que c'est un poète. C'est un poète, c'est très compliqué la poésie. Alors, il y a un travail dessus.
Alors, on va voir comment Hervé Letellier a éclairci. D'abord, quel substantif avez-vous choisi ?
Il n'y en a que trois, donc ça m'a limité le travail. Il y en a quatre avec bord.
Oui.
Il y a fiancée, maison et fenêtre que j'ai pris.
Et alors, vous touchez à la fiancée, je
bien
suppose.
Bien sûr, j'adore toucher à la fiancée.
Champ, ouais.
Alors, la fiancée, c'est le prolongement émouvant d'un annulaire orné d'une bague.
Le prolongement émouvant d'un annulaire orné d'une bague.
Ce sont des fiançailles officielles.
Oui.
Exactement.
Oui.
C'est une vraie fiancée.
Une vraie fiancée.
Oui, ben c'est bien, moi, je trouve. Ouais. Évidemment, ça change le genre, parce que ce « elle » devient « il ».
Oui, oui, oui.
Ça vous a perturbé par la suite, Jacques Jouet,
oui,
Jacques Vallée?
On est passé à Lille.
Ah, vous êtes passé à Lille. Ils sont fins, ils sont malins.
Qui dit une fiancée laisse entendre qu'il doit y avoir un fiancé pas très loin.
Ouais. Oui, il y a quand même un changement
de sexe.
C'est
pas faux, oui.
Après, Hervé.
C'est toujours embêtant pour une fiancée, un changement de sexe. Maison.
Pas tellement, au bout de nous.
Oui, la maison, c'est quoi?
Soyons modernes.
Ça ne dérange personne.
Maison. Destination d'un appel d'extraterrestre.
Destination d'un appel
d'extraterrestre. Oui, E.T. appelle
maison. Oh, maison, oui. À la fin, oui. Oh, magnifique. En plus, c'est très culturel, mais c'est toujours comme ça avec Hervé. Hein.
Franchement, c'est très culturel.
Évidemment,
c'est Spielberg.
Il faut avoir vu le film de Spielberg, autrement on est perdu.
Voilà, mais enfin, bon.
Moi, je ne l'avais pas vu.
Ah. Destination d'un appel d'extraterrestre. Oh, c'est, voilà. Et puis,
ensuite,
fenêtre,
oui.
Ouverture par laquelle on jette l'argent.
Ah, mais ça, c'est parfait.
Oh, ça, c'est bien.
Oh là là.
Voilà.
Ah, mais je vais vous dire, moi, je trouve que ces périphrases sont tout à fait bien intéressantes.
Je m'en suis tirée.
Non, mais pendant que vous avez travaillé, j'ai vu ce qui était derrière vous, Hervé Le Tellier, c'est-à-dire Jacques Vallée, Jacques Jouet, souffrir énormément. Je ne comprends pas pourquoi.
Non, parce que franchement, ça donne ceci.
Oui.
Mon prolongement émouvant d'un annulaire orné d'une bague m'attend dans la destination d'un appel d'extraterrestre.
Oui, c'est peut-être l'appel d'extraterrestre qui est évidemment aussi. Il y avait une note en bas de page disant voir le film.
Oui, il brode.
On peut pas deviner.
Et non plus il brode, puisque c'était mon prolongement.
Oui, il brode.
Il brode au bord d'une petite ouverture par laquelle on jette l'argent.
Par la fenêtre.
Maintenant qu'on le sait, on voit la fenêtre, évidemment.
Ouais. Ah oui. Ça, c'est très bien. Je rappelle la phrase du début. Ma fiancée m'attend dans la maison. Elle brode au bord d'une petite fenêtre. Donc, Jacques Vallée, vous avez reçu ce prolongement d'un annulaire, toute cette histoire.
Mais je n'avais ni la maison, ni la...
Non, ni la fiancée.
Ni la fenêtre, donc.
Ni la phrase de départ. On est bien conscient de votre problème, Jacques. Alors, vous aviez ce joli texte, ma foi, peut-être plus rationnel, moins poétique, d'Hervé Le Tellier.
Différent, on va dire.
Et vous avez choisi, dans ce texte d'Hervé, trois substantifs.
La bague.
Oui.
L'ouverture,
oui.
Et l'argent.
Ah ben oui. La bague, ça ne va peut-être pas simplifier les choses de la travestie.
Moi, j'ai mis une chose très simple. Cercle fatal qui nous mène au doigt et à l'œil.
Eh bien, il a très bien compris qu'il s'agissait de fiançailles.
Exactement.
En quelque sorte.
Mais il a une vision un peu triste des fiançailles.
C'est
quand même.
Lui.
Réaliste. Enfin.
Pas mal, oui. Après.
Ouverture, trouée libératrice dans laquelle on se précipite.
Ça, c'est évidemment comme ça ne marche pas avec la fiancée, on
se suicide. Il saute, voilà.
Et l'argent, l'obsession de toutes les activités humaines.
Oh, vous n'êtes pas toutes quand même.
Pessimiste.
Oui, c'est quelle vision noire du monde.
Oui, je trouve.
Ben, vous ne trouvez pas que l'argent mène le monde, alors c'est...
Je crois que c'est de l'amour, moi.
Oui, mais c'est les femmes vénales cherchent un fiancé riche. C'est ça le truc.
C'est un peu ça l'idée, oui. Alors, Jacques Vallée, bah, vous ne reculez pas, vous êtes au pied du mur, vous insérez vos périphrases dans le texte d'Hervé Le Tellier, ce qui va le modifier, évidemment.
Mon prolongement émouvant d'un annulaire, orné d'un cercle fatal qui me mène au doigt et à l'œil, m'attend dans la destination d'un appel extraterrestre. Il brode au bord d'une trouée libératrice, dans laquelle on se précipite et par laquelle on jette l'obsession de toutes les activités humaines.
Évidemment, on se demande un peu pourquoi il brode, quoi.
C'est la broderie qui n'a vraiment plus rien à voir.
Mais à part ça, ça a du sens. Et on n'est pas si loin de Tardieu et de « Ma fiancée m'attend dans la maison ». Elle brode au bord d'une petite fenêtre, qui est une image du bonheur absolu, quand même.
Bah, ça dépend.
Non, ah bon, mais...
Moi, je trouve que ça se mette l'ennui, mais... J'aime pas la broderie.
Jacques Jouet, vous ne connaissiez pas ce qui précédait Jacques Vallée. Vous n'avez eu affaire qu'à Jacques Vallée.
Ça me suffit.
Bon, et son côté un peu noir, vous êtes allé dans le même sens que lui ou pas?
Oui.
Est-ce que vous l'avez compris, ce texte?
Non.
Ça vous a gêné?
Eh bien, oui, ça m'a gêné.
Un petit peu. Donc vous avez essayé quoi, de remplir ce texte de tout ce que vous saviez.
J'ai essayé de faire le chemin inverse, c'est-à-dire de retrouver ce qu'Hervé voulait, je ne sais pas.
Hein?
J'ai pris l'annulaire, par exemple, que j'ai défini de la sorte, fragment de la main très sollicité dans les épousailles.
On y revient
au mariage, à l'amour.
Ah.
Bien joué. Bien joué.
Donc ça va être très très facile pour le suivant.
Oui, je te remercie. Oui. Oui. Merci.
Trouée libératrice. Alors j'ai pris le nom et l'adjectif. Parce que quand on, quand on insère une périphrase entre le substantif et l'adjectif, ça, on a toujours des gros problèmes après. Bon, trouée libératrice. Défaut de la muraille de la ville fortifiée de Gruyère en Suisse.
Vous pouvez nous dire ça ? Trouée libératrice.
Défaut de la muraille de la ville fortifiée de Gruyère en Suisse. Vous connaissez Gruyère, c'est une ville avec beaucoup de remparts.
Oui.
Mais ils sont pleins de trous. Bah, c'est...
Il n'y a que là-bas que...
C'est particulier à la ville de Gruyère. Oui.
Non, évidemment, là, ça change un petit peu.
Merci, Jacques. Oui.
Et troisième substantif.
Et le troisième, c'est obsession.
Oui.
Là, c'est un peu le contraire du précédent. L'obsession, c'est le remplissage absolu de l'esprit.
De l'esprit.
Oui.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein. C'est vrai. Mais on prend le temps de réfléchir.
C'est,
quand même,
c'est même un embouteillage.
Une bousculade.
Bon, ben, on vous attend. Alors, vous insérez dans le texte de Jacques Vallée.
Mon prolongement émouvant d'un fragment de la main très sollicité dans les épousailles, orné d'un cercle fatal qui me mène au doigt et à l'œil, m'attend dans la destination d'un appel extraterrestre.
Oui.
Il brode au bord d'un défaut de la muraille de la ville fortifiée de Gruyère en Suisse, défaut dans lequel on se précipite et par lequel on jette le remplissage absolu de l'esprit de toutes les activités humaines.
Ah oui. Non, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ma fiancée m'attend dans la maison, elle brode au bord d'une petite fenêtre. Évidemment, là, on a Gruyère, on a des tas de choses, quoi. Et puis, une espèce de vie obsessionnelle, peut-être c'est ça l'amour, je ne sais pas.
Oui.
Patrice Minet,
oui.
Bon, dans le secret de ce studio, vous étiez face à ce texte de Jacques Jouet, qu'il ne vous avait pas lu, vous l'avez lu avec vos propres yeux.
Oui,
et ça
vrai.
Change beaucoup de choses.
Absolument.
Et je vous ai demandé de le dépériphraser, c'est-à-dire de dénicher les périphrases.
Et d'essayer de retrouver la phrase primitive.
Voilà.
Et bien, vous allez être étonné.
Non, c'est vrai.
Ah,
étonnez-moi.
Oui. Ah oui. Parce que, voici, mon prolongement émouvant d'un fragment de la main très sollicité dans les épousailles, l'annulaire.
Bien, évidemment.
L'annulaire, c'est...
Qui n'est pas chez Tardieu, mais qui vient d'Hervé Le Tellier, donc qui vient de loin.
Et qui concerne la fiancée.
Bon, c'est quand même un gage de qualité, Hervé. Donc, l'annulaire. Orné d'un cercle fatal qui me mène au doigt et à l'œil. L'alliance, le cercle fatal.
Évidemment.
C'est ça.
Évidemment, oui. C'est...
Mon alors, fatal est un petit peu pessimiste, mais bon...
Oui, mais ça vient de Jacques Vallée, c'est son problème.
M'attend dans la destination d'un appel extraterrestre. Alors
oui,
là,
alors...
ça m'a posé un peu question.
Bon, oui, quand même.
Donc, je vais vous donner une réponse.
Oui.
Voilà. Alors, moi, j'ai pensé destination d'un appel extraterrestre. Le téléphone qui passe par les airs.
Oui.
Hein, la tête.
Oui.
Donc,
oui.
Ce doigt, donc, orné d'une alliance, pianote sur le téléphone.
Oh.
Il brode au bord d'un défaut de la muraille de la ville fortifiée de Gruyère en Suisse. Alors là, oui.
Sur le téléphone.
Voilà. Alors, d'une certaine façon, je ne savais pas qu'il s'agissait de Jean Tardieu.
Non, évidemment.
Non. Et je le regrette. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait aller derrière cet annulaire et cette alliance? Eh bien, moi, j'ai dit auquel je ne résiste pas. Parce que ça correspondait un petit peu à l'idée que je me faisais de la phrase.
Ah oui.
Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Non, mais ça, c'est ce qui se passe dans la tête
parce
de
qu'il
Minet.
Aime beaucoup
hein.
Le gruyère, mais il résiste.
Oui,
pas.
Le défaut de l'armure,
oui.
C'est ce qui ne résiste pas.
C'est exact.
Le talon d'Achille, c'est ça.
Oui.
Voilà. Alors, je me suis accroché comme ça. Alors, la muraille, donc, je n'ai pas réussi à l'insérer dans mon texte, mais bon, et ni Gruyère, je m'excuse, Jacques, je n'ai pas touché au Gruyère.
Ce sera la toile de fond.
Mais Gruyère m'a aidé pour la suite. Et par lequel on jette le remplissage absolu de l'esprit de toutes les activités humaines. Alors là, ça m'a paru vraiment d'une netteté, d'une transparence. Console des déboires et des vicissitudes de la vie. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est donc... Vous avez une phrase très simple.
J'ai raté un épisode, moi.
Mon annulaire orné d'une alliance pianote sur le téléphone.
Oui.
Il portait des traces de croûte de fromage, ce fromage auquel je ne résiste pas, ce gruyère donc, et qui me console de bien des déboires dans ma chienne de vie.
Une chienne de vie, c'est une chienne.
Oui, j'ai trouvé après une forme un petit peu plus acceptable.
Oui, oui. Pour que et vous c'est une phrase que vous attribuez à quelqu'un ?
Au sapeur camembert.
Très bien.
Voilà.
Oui, on n'est pas Christophe. Loin de chez Gruyère, oui, évidemment.
L'essence du téléphone, en plus.
Alors, on est parti.
La broderie était habilement glissée sous le tapis.
Exactement, oui.
Oui, j'ai pas brodé sur la broderie.
Bon, la broderie qui était quand même bien là chez Tardieu. Ma fiancée m'attend dans la maison. Elle brode au bord d'une petite fenêtre. On peut réécouter la phrase à laquelle vous êtes parvenu.
Mon annulaire, orné d'une alliance, pianote sur le téléphone. Il porte des traces de croûte de fromage, ce fromage auquel je ne résiste pas et qui me console de bien des déboires dans ma chienne de vie.
Alors là, quand même, le texte de Tardieu était très autour d'une femme. Le vôtre est vraiment centré autour d'un homme.
Mais ça, il n'y peut rien. C'est dès le départ, elle est devenue «
Non, mais le côté chienne de vie. Une femme ne dit pas « ma chienne de vie ».
Oui, mais là, il y a une femme dans la chienne, quand même.
La chienne de vie. Oui. Qu'est-ce que vous en
pensez ?
Dans
ma vie. Dans ma vie.
Dominique Muller, vous qui n'étiez pas dans l'exercice.
Eh bien, évidemment, quand on connaît la phrase de départ, ça a l'air plus simple. Ça, je dois reconnaître.
Faites-vous la guerre pour me faire la cour, tenons, battez-vous. Soyez gangster, soyez voyou, tenons, battez-vous. Toi mon tout mon loupard, tenons, battez-vous. Tu serais mon lascar superstar. Sortez de l'art et les bijoux, mettez-vous à genoux. Dans la jaguar, dans la gadoue, mettez-vous à genoux. Toi mon tout mon loupard, mettez-vous à genoux. Tu serais mon lascar superstar.
Les Brigitte, si vous n'êtes pas content, dites-le. Rédigez un pamphlet, une lettre ouverte, que le monde entier sache ce que vous n'aimez pas, ce qui vous blesse ou vous agace. Râler, c'est facile, il suffit de se laisser râler et d'un peu de folie. Tenez, prenez Eva Almassie, elle est plutôt sympathique, Eva, et puis un petit accent adorable, elle peut presque tout dire et ça passe. Eh bien aujourd'hui, elle n'est pas contente, mais alors pas contente du tout. Pourquoi Eva, qu'est-ce qui vous dérange ?
Je suis contre les petits pains en vente libre.
Ah bon ?
À tous les coins de rue et encore plus dans les gares, les aéroports, absolument partout, au vu et au su de tout le monde. Mais que fait la police ? Eh bien, j'imagine le pire, même les policiers doivent en acheter, en manger au moindre petit creux. Et hop, on se met dans la queue. Et pour vous, madame, qu'est-ce que ce sera ? Un petit pain aux olives, un petit pain aux noix, un petit pain aux raisins, etc. Ainsi de suite, car ça ne s'arrêtera donc jamais. Qu'est-ce qu'il y a comme boulangerie dans cette douce France, cher pays où je m'enfonce, dans l'orgie farineuse, la rage de pain, l'amour des rondeurs à dévorer et la haine des rondeurs à porter comme un boulet conséquemment au vice susdit, ce vice auquel je m'adonne sans espoir de retour, l'excès de petit pain. Et je ne parle même pas des pains aux raisins ni des chocolatines. Chaque jour suffit sa peine. Je maudis les dynasties de boulangers où les fils se font un prénom d'apôtre pour mieux reproduire le miracle de la multiplication des petits pains et m'induire en tentation là où je suis la plus fragile entre deux horaires de mon train de banlieue. Rien que dans ma gare, trois étals, des demi-douzaines de revendeurs suppôts du démon au visage d'ange. Petit pain pistolet, je joue à la roulette russe avec ma balance. J'exige que l'on puisse se faire interdire de boulangerie comme de casino. Il y a des caméras de surveillance en abondance. Ça aussi, ça se multiplie-t-elle, les petits pains. Je propose qu'elles servent à quelque chose d'utile. Reconnaissance faciale, on aurait ma photo et les charmants vendeurs videurs m'opposeraient une fin de non-recevoir sans appel. Non, 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 madame, mademoiselle, pas pour vous, je ne puis vous servir, non, ni petit pain au lardon, ni benoîton aux fruits, non et non, même pas une ficelle au pavot. Une demi-baguette multigrain, demandai-je en désespoir de cause. Non, 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 c'est vous qui l'aurez voulu, vous êtes interdite de petit pain, madame. Désolée. Mais il est loin du rêve à la réalité. Petit pain, vous me roulez dans la farine, vous paraissez si léger, si minuscule, si tendre, si innocent. Mais sous vos dehors engageants, il y a un cœur battant de calories, une mie qui ne me veut pas du bien. Si au moins vous étiez gros, je n'achèterais pas un gros pain à la gare.
Oui, on va savoir.
Du moins, je n'en achèterai pas deux d'un coup. Certainement pas. Mais vous êtes petit, vous vous faufilez jusque dans les restaurants dès avant le repas, en compagnie d'un petit pot de beurre, sournois. Je serais genre petit chaperon, me voilà louve, à beurrer du petit pain, à le dévorer, à n'en pas laisser une miette à ma propre grand-mère. J'accuse, je protège, je dénonce, je ne ménagerai pas mes efforts, je mobiliserai mes meilleures capacités d'éloquence. Attendez une minute, je finis, j'avale, on ne parle pas la bouche pleine.
Ah, c'est difficile d'être gourmande et de surveiller son poids en même temps, hein, Eva. Ah là là.
Comme dit Nadine de Rothschild, on mange des petits pains et on a des grosses miches. Tu es sûr de l'origine ? Citation.
Et Pascal Fioretto prend votre relais, Eva. Je ne sais pas s'il est pour, contre. C'est un gourmand. Mais c'est un gourmand qui fait attention. Donc je ne sais pas quel est son point de vue sur les petits pains.
Ben, en l'occurrence, j'ai un point de vue très intéressé sur les petits pains. Puisque je suis le vendeur de la gare Montparnasse. Popol, et j'ai adressé cette lettre à l'inconnu du train 5547 de 18h53 pour plaisir.
Ah, on la connaît donc, oui.
Madame, ou plutôt, j'ose l'espérer, mademoiselle, tous les jours, vous achetez votre pain dans ma boutique, vous savez, juste en face du kiosque, et tous les matins, je vous observe. Vous vous dirigez vers moi, telle une somnambule, votre main droite serrant votre sac à pain, votre main gauche tirant sur votre col, comme si elle tentait de vous retenir. En vain, car après vous êtes débattu quelques minutes avec vous-même, au milieu d'une foule d'ailleurs indifférente, puisqu'elle est habituée à vous voir, vous finissez toujours par gagner, ou par perdre, c'est selon, et vous voilà devant mon étal, les yeux agrandis par je ne sais quelle indicible terreur secrète. Et puis, quand c'est à votre tour d'être servi, vous prononcez avec une voix venue de nulle part, ou peut-être d'Europe centrale, la phrase fatidique, toujours les mêmes mots. Quelque chose comme « Mettez-moi trois de chaque et qu'on en finisse, c'est pour emporter ». Et le soir, même manège, vous revoilà devant moi, votre lavalière fantaisie couverte de miettes, de petits bouts d'olives, de pavots, de multigrains et de lardons. Et vous avez encore votre regard un peu fou en prononçant ces mots.
Je vous ai dit qu'il y avait des caméras de surveillance.
Il vous reste quelques benoins aux fruits et puis vous disparaissez. Votre sac débordant, absorbé par la foule. Et moi, je dois attendre le lendemain matin pour vous revoir, me consolant en pétrissant longuement, amoureusement, toute la nuit ces petits pains que vous m'achèterez le lendemain. C'est ainsi que m'est venue l'idée de glisser dans l'un de vos pistolets figues et gruyères ce petit mot. Surtout, si vous le découvrez, faites-moi un clin d'œil ce soir à la boutique. Je saurai que vous savez et je vous offrirai une brioche au beurre. Votre dévoué, Paul.
Ah là là.
Oh, qu'est-ce que c'est mignon.
Tous les matins, il achetait son petit pain au champ.
Les petits pains au chocolat. Joe Dassin, revue par The Unfinished Tupperwares. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressart et la bande des papous du jour. À suivre jusqu'à 13h58, je tue il ou elle catalogue pour le plaisir des inventaires, Le beau dimanche de Jacques Jouet, et jeux autour d'une onomatopée japonaise ou impressif Dolo Dolo, avec Véronique Brindeau, Dominique Muller, Hervé Letellier. Alors voilà, pour le plaisir de rédiger des listes collectives, par exemple de lieux rêvés, de bouts de chansons qui vous trottent dans la tête le soir jusqu'à l'obsession et vous empêchent de trouver le sommeil, d'objets cassés par envie, par hasard, des vies qu'on n'a pas eues, etc., etc. Heureusement, ce qui est à inventorier est sans fin. Le sujet du jour, traité par Lucas Fournier, Dominique Muller, Jean-Bernard Pouy et Patrice Delbourg, les livres, les films, les opéras dont on a loupé la fin, ça arrive. Et puisqu'on ne la connaît pas, cette fin, pourquoi ne pas l'imaginer? Lucas Fournier, c'est à vous de dire, le premier.
Alors je ne me souviens pas du tout de la fin du soulier de satin de Paul Claudel. Du début non plus et du milieu pas davantage. Et pourtant j'ai bien vu la pièce. Ou alors c'était le partage de midi.
Ah, et vous aussi, Dominique?
Alors moi aussi, j'ignore tout de la fin du soulier de satin pour la bonne raison que je suis toujours partie bien avant. En dépit du sous-titre « Le pire n'est pas toujours sûr oui. », je trouve que le pire s'assombrit de minute en minute. Il y a un monde fou là-dedans et des drames de conscience en veux-tu en voilà pendant des années et des années. Bref, à mon sens, ce serait logique qu'à la fin, Rodrigue, qui a perdu une jambe en combattant les Japonais, lesquels... Bon, oui. Récupère le soulier de satin que Prouesse a déposé devant une statue de la Vierge en faisant je ne sais plus quel vœu d'être boiteuse si jamais elle commet des péchés. Il en chausserait son pied valide et la boucle serait bouclée.
Mais vous n'êtes jamais allé jusqu'à vérifier.
Ah, jamais jusqu'au bout.
Non. Jean-Bernard Pouy.
Alors, je vais faire un tir groupé de trois en même temps. Ah bon? Parce que c'est le même problème. C'est le meurtre de Roger Ackroyd, d'Agatha Christie,
oui.
Dix petits nègres d'Agatha Christie,
oui. Oui.
Et aussi le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux.
Bon, c'est je sais pas tous les trois.
Oui, mais je ne sais pas pourquoi, je ne me souviens pas de la fin.
Oui, pour le mystère donc, de la chambre jaune, oui, c'est vrai.
Ce qui est terrible, parce que ça élimine un peu, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, ça élimine le principe de narration, qui est basé là-dessus. Mais en même temps, j'ai un plaisir extraordinaire à pouvoir les relire.
Mais oui.
Avec la surprise aussi. Mais comme j'oublie très très vite, c'est formidable.
Patrice.
Que devient Gregory Peck, qui interprète le rôle du capitaine Keith Mallory dans Les Canons de Navarone, d'après le roman d'Alistair MacLean?
Ouais.
Vous savez, ce commando de choc à l'assaut ouais. d'une forteresse imprenable. Moi, je crois me souvenir qu'Anthony Quinn, lui, est poignardé dans un bateau, mais Peck, quid Peck?
Mais il s'en sort, lui.
Ah, ça, c'est bizarre.
Il s'en sort toujours.
Oui,
en principe, il s'en sort toujours.
Il est trop beau pour mourir.
Ah, ben voilà. Quid Peck.
Dominique.
C'est idiot, parce que toute l'affaire repose sur la mémoire. Mais je n'ai pas le moindre souvenir de la fin du temps retrouvé. Je l'ai lu, bien sûr, mais il se trouve que je préfère la recherche, comme tout le monde entre nous. Monde disparu, champ de ruines, c'est le gros du sujet. Je suppose qu'à la fin, le narrateur s'éloigne comme Charlot à la fin de ses films, en clopinant. Je le vois bien s'installer à Commercy et ouvrir un commerce de Madeleine chez Proust, au petit Marcel, quelque chose comme ça.
Il faudrait qu'on relise. Hein.
Eh ben voilà. Non, qu'on lise.
Ou qu'on lise tout court.
Ben, qu'on lise pour mon fils qui
il concerne. Va se coucher.
Peut-être qu'il retourne se coucher.
Oui. Jean-Bernard Pouy.
Je ne me souviens pas. Et d'ailleurs, je me demande si je veux m'en souvenir. De la fin du Petit Prince.
Ah, non. Oui,
de Saint-Exupéry.
Oui.
Parce que c'est un livre qui m'a tellement ennuyé, voire dégoûté, que peut-être que j'ai zappé la fin. Je ne sais plus si suicide ou pas. Enfin, bref.
Ah,
mais
non.
Il me semble que, le Petit Prince, il passe.
Ah bon
il choisit de se faire piquer par le serpent.
Voilà.
Ah
oui.
comme Nefertiti.
Oui, pour remonter dans sa planète.
Voilà, c'est ça. Oui. Moi, je le voyais bien heureux
avec son aspic, oui.
Bon.
Dans Vipère au point, d'Hervé Bazin, le livre miroir qui a crucifié mon enfance. Vous vous souvenez ce conflit haineux entre Brasse-Bouillon et la terrible Folcoche? Bon, elle échappe à la noyade, à l'empoisonnement. Et à un moment donné, Brasse-Bouillon quitte la propriété, la belle Angerie. Mais quand il s'en va, est-ce que Folcoche est encore en vie ou non? Ça, je vous le demande.
That is the question.
Disons que oui.
Ah oui.
Qu'elle est là.
Je revois bien Alice Sapritch dans le rôle, mais la fin m'échappe.
Bah, c'est la survivante, quoi, non? Elle est tellement méchante qu'elle ne meurt pas.
Les méchants ne meurent jamais.
Les méchants ne meurent jamais. Ah bon.
Mais oui, malheureusement. Dominique Muller, un film, une pièce de théâtre?
Les deux.
Oui.
Autant on emporte tellement le vent que je serais bien incapable de dire comment finit cette longue histoire. C'est vrai, quoi, ça va, ça vient, paix, guerre, amour, haine, oui, non. On sait tellement pas sur quel pied danser que ça peut finir bien ou mal sans changer le fond de l'affaire. Pour autant que je sache, Scarlett quitte le Sud et va faire du théâtre à New York où elle devient célèbre. C'est ça, elle épouse un acteur moustachu et ensemble ils font un tabac.
Mais non, elle dit « je retourne à Tara, on verra bien demain ».
Ah oui?
Ouais.
Ça refroidit. Hein.
Il l'a quitté.
Le moustachu justement.
Le moustachu l'a quitté.
Mais ils font un tabac quand même.
Parce qu'elle pense que ça s'arrangera toujours un jour.
Ah ben voilà.
Lucas Fournier.
Je ne me souviens pas du tout de la fin du manuscrit trouvé à Saragosse. Parce que je l'ai perdu à Salamanque.
Jean-Bernard Pouy.
Moi, je ne me souviens plus de la fin du désert des Tartares.
C'est le roman préféré de Lucas Fournier.
Alors j'ai des vagues impressions, que enfin les Tartares arrivent.
Ah, mais
qu'ils arrivent vraiment ou est-ce que c'est une imagerie qui serait dans la tête de ce pauvre lieutenant
Drogo.
Donc, je ne sais pas vraiment. Ça serait quand même dommage qu'il meure juste au moment où les Tartares...
C'est quand même ce qui arrive.
Oui, mais ils arrivent vraiment.
Mais oui, puisque la carriole qui emporte ce pauvre Drogo agonisant croise toutes les armées qui vont enfin aller affronter les Tartares.
Il les a loupés.
Ah, il les a loupés.
Tant pis, Dominique Muller.
Dans les romans russes, ce n'est pas une, mais des dizaines de fins que je suis incapable de me rappeler. À part le train d'Anna Karenine, j'ignore comment s'achève l'idiot, le joueur, l'éternel mari, les possédés, etc., etc. Il me semble que ça se termine toujours de la même façon, par des châtiments après des crimes. Moi, je verrais bien tous ces héros déchus se retrouver dans la modeste maison de famille tenue par les frères Karamazov à Moscou. Ils y feraient une fin entre eux, à la Balzac.
Lucas Fournier, encore quelque chose à dire sur le sujet?
Aucune idée de la fin de « Au-dessous du volcan » de Malcolm Lowry, malgré 3 tentatives de lecture. La première à 17 ans, puis à 25 ans, puis encore 10 années après. Et donc, je ne sais toujours pas s'il y a éruption ou pas du volcan.
Non, Patrice Delvaux, et c'est Jean-Bernard Pouille.
Il est jeté mort
dans le cratère,
dans le ravin, dans la barranca, et on jette un chien mort sur son cadavre.
Quelle horreur. Patrice Delbourg.
À la fin du pont La Rivière Kouaille, David Lean, est-ce que William Holden, vous savez, qui joue le capitaine de frégate Shears, et qui a pour mission de faire sauter le pont, est-ce qu'il s'en sort? Est-ce qu'on peut me répondre, bon Dieu?
Je suis pas sûre.
Ah. David Niven,
ça m'a fait pleurer d'ailleurs.
Est-ce qu'il s'en sort pas, William Holden?
Je crois pas, non. C'est à creuser. Aidez-nous, je vous en prie, écrivez-nous, Dominique Muller.
Du courrier.
C'est étrange, mais je n'ai jamais réussi à lire la fin de L'Étranger. C'est parce que je suis trop sentimentale. Oui. Je m'explique. Mon père adorait Camus et j'ai reçu en héritage la première édition, en très mauvais état, avec les pages de fin manquantes, mais j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Je l'ai racheté en livre de poche, naturellement, pour savoir, mais lui aussi s'est démantelé au cours de ma lecture et j'ai perdu les pages de fin dans un bus. C'est pas très grave, je suis sûre que ça finit bien. J'ai quitté Meursault en prison pour meurtre. À mon avis, ce n'était qu'un long cauchemar parce que c'est un type bien dans le fond, victime des circonstances. à mon avis, toujours réveillé. Il retourne à la plage avec Marie et finit par l'épouser. Ce mariage fait de lui un homme plein de joie de vivre, aimé de toute la ville.
Oui, c'est ça. C'est bref, ça. Sur cette idée,
c'est bien. Oui, oui. Oui, c'est oui, une jolie fin, en tout cas. On continue avec Lucas Fournier, qui n'a pas eu la fin de quoi ?
Je me suis endormi pendant le chef-d'œuvre de Spielberg, Rencontre du troisième type. Et j'en ignore donc la fin. À un moment donné, un petit garçon fait un tas avec son jambon purée. Et après, mystère. Alors, en revanche, à défaut du troisième type, je peux vous raconter la scène finale du troisième homme.
Ah,
avec
bah
Ali
oui,
Davali.
Oui,
ah oui.
C'est
in constant sorrow.
La bande originale du film Oh Brother, c'est Man of Constant Sorrow. Une nouvelle série, Les Jolis Dimanches, épisode 6, un à la manière de, signé Jacques Jouet. Et pour lui, les dimanches ne sont pas seulement des jolis dimanches, ils sont beaux aussi. Saisissez la nuance. Il est comme ça, Jacques. Quel est ce dimanche, monsieur Jouet ?
C'est le beau dimanche de Garcia Lorca, de Federico Garcia Lorca. Le dimanche à 2h moins le quart. Il est 2h moins le quart. Le dimanche à 2h moins le quart. On a repris deux fois du dessert. Le dimanche à 2h moins le quart. C'était des bananes flambées avec tout ce que ça suppose. Le dimanche à 2h moins le quart. Le parfum du rhum et la flamenco. Le dimanche à 2h moins le quart. Et un sorbet aux fruits rouges par-dessus. Le dimanche à 2h moins le quart. Un coulis s'étalant comme la lave de sang sur le sable de l'arène. Le dimanche à 2h moins le quart. Et la cuisse et l'aile du poulet rôti dans l'estomac, le bréchet. Le dimanche à 2h moins le quart. Les familles donnant à boire à leurs paroles et à leurs morts. Le dimanche à 2h moins le quart. Le dimanche à 2h moins le quart. Avec dans la tête l'envie de quitter la table, la tête haute. Le dimanche à 2h moins le quart. Et d'aller sur la mousse cuver le mousseux. Le dimanche à 2h moins le quart. Les conversations deviennent plus vives. Le dimanche à 2h moins le quart. On éteint la radio. Le dimanche à 2h moins le quart. Alors on se met à parler politique. Le dimanche à 2h moins le quart. Erreur fatale, le dimanche à 2h moins le quart. Car il y a des couteaux sur la table de la salle à manger. Le dimanche à 2h moins le quart. Et le coulis de fraises va ressembler au résiné. Le dimanche à 2h moins le quart, le dimanche à 2h moins le quart. Famille, je vous aime. Le dimanche à 2h moins le quart. Chacun voit midi à sa porte. Le dimanche à 2h moins le quart. On se déchire avec passion. Le dimanche à 2h moins le quart.
Il est presque 2h moins le quart, pas tout à fait. Et c'est la dernière séquence du jour où il sera question de jouer, bien sûr, puisque tout est jeu au papou, de jouer avec un impressif. Impressif, c'est le nom donné aux onomatopées japonaises. Exemple, oula oula, boya boya, choulou choulou. Ces impressifs traduisent une impression, une sensation, un curieux mélange de ressentis qui, en français, s'exprimerait par une très longue phrase. Prenez Proust, et bien traduit en japonais, il est infiniment plus court que dans sa version originale. Alors, il en existe des milliers d'impressifs et nous nous y intéressons de très près avec notre papou Véronique Brindeau. Véronique, elle est traductrice de romans japonais, elle travaille sur le théâtre No aussi et elle enseigne l'histoire de la musique ancienne japonaise aux langues zo. On la retrouve aujourd'hui avec un nouvel impressif pour lequel Dominique Müller et Hervé Le Tellier ont imaginé un sens possible qu'ils défendront parce qu'ils en auraient retrouvé des traces dans la littérature autre que japonaise. Et on sait, on les connaît, ce sont tous les deux de très habiles pasticheurs. Allez, on se met dans l'ambiance du Japon avec Maliko Ike, Sagé Pierre, Ceylon Jupon, en nippon. Ce dimanche, on joue avec Dolo Dolo. C'est bien comme ça qu'on le prononce, Véronique Brando.
Dolo Dolo, c'est exactement comme ça.
Redites encore.
Dolo Dolo.
Dolo Dolo, il y a une pointe de douceur.
Ah, ça, c'est à vous d'en juger.
En tout cas, à l'entendre, à l'oreille, ça a l'air très doux. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. C'est la question que je vais poser à Dominique Müller et Hervé Le Tellier. Selon vous, qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire, Dolo Dolo, Dominique Müller?
C'est très simple.
Ah ben alors, c'est en général ce qu'on dit quand ça va être très long et très compliqué.
Mais pas du tout. Non. C'est exaspérer la personne aimée en ne lui déclarant pas son amour, par peur du ridicule ou parce qu'elle est prise ailleurs. En tirant toutefois une figure longue comme un jour sans pain pour qu'elle en tire la conclusion qui s'impose.
C'est-à-dire qu'elle n'est pas aimée, en fait.
À elle de voir.
Ah, c'est au choix.
Oh là là, hein? C'est beaucoup plus compliqué que moi.
Ah bon, c'est quoi pour vous, Hervé Le Tellier?
Alors, moi, c'est très adapté au dimanche,
oui,
puisque c'est typiquement une chose du dimanche.
Oui.
C'est faire cuire au four un gigot d'agneau, oui, décongelé, en appliquant le temps de cuisson d'un agneau congelé, parce qu'on a oublié qu'on l'a fait décongeler.
Oh non.
Ah oui, il y a un malentendu à la base.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a un oubli.
Ou un oubli. Un
vague oubli.
Une erreur.
Mais il ne faut jamais acheter du
voilà. Ce qu'il y a de commun entre nous deux acceptions, c'est quand même le côté congelé.
Oui.
Parce que le visage congelé.
Le côté agneau aussi, hein, finalement.
Voilà, exactement.
Finalement, ça fait beaucoup de choses en commun.
C'est qui fait
donc le côté dur de la glace, finalement, est-ce qu'il y a un petit peu de ça, Véronique Brando, dans Dolo Dolo?
J'ai un peu de mal à me représenter l'état du gigot.
Moi, vaut mieux pas.
Mais il est possible qu'on s'en rapproche, mais ça serait pas un état nécessairement très appétissant dans ce
non,
cas.
Non, pas du tout. Bah, exact.
Un gigot trop
d'ailleurs, j'ai la preuve que c'est pas très appétissant.
Ah, vous avez des traces
oui,
littéraires
oui.
Ah oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe?
J'ai une petite comptine.
Oui, de qui? Du folklore?
Du folklore de tous les endroits où on mange de l'agneau. Donc ça représente une bonne partie de la planète.
Oui.
Alors c'est « J'ai dolo dolo dans ma cuisinière, j'ai dolo dolo, on ne mangera pas, car le gigot, je l'ai fait brûler, il est totalement carbonisé. » J'ai dolo dolo dans ma cuisinière, j'ai dolo dolo, on ne mangera pas.
La fin est donc tragique, en tout cas pour ceux qui aiment le gigot.
Bah, c'est-à-dire qu'il reste le gelé. Voilà.
Ce qu'il y a de meilleur dans le gigot.
C'est ce qu'il y a de meilleur, bien sûr.
Est-ce qu'il y a ce côté légèrement désespérant, voire désespéré dans Dolo Dolo, Véronique?
Il peut y avoir un caractère un peu sombre pour ce qui est de la couleur. Oui.
Ah. Ah, bah c'était, oui, c'est un peu sombre ma couleur, effectivement.
Bah, c'est-à-dire, oui, carbonisé, oui. C'est forcément bah, oui, c'est noir, c'est noir.
Il n'y a plus d'espoir.
Dominique Müller, donc, cette légère exaspération qu'on fait naître chez l'être aimé en ne lui disant pas clairement qu'on l'aime, en laissant le doute.
Oui, tout en faisant des mimiques expressives.
Oui, vous l'avez retrouvé.
Oh, bah, chez Ronsard, évidemment. Ah. C'est une ode à Cassandre dans le quatrième livre.
Mmh.
Toutes les fois que j'aperçois ma nymphelette auprès de moi, qui me tend à demi-farouche sa petite vermeille bouche, Dolo, dolo, mon âme attend qu'elle me vienne baisotant. Mignonne, allons voir si la rose va pâlir comme moi morose pour me voir privée du moyen d'avoir jamais un pareil bien.
Évidemment, évidemment, mais on comprend l'espèce de perversion de Ronsard.
Oui, c'est surtout l'époque, enfin, c'est une époque où on ne pouvait pas comme ça se lancer à la tête de quelqu'un.
Non. Vous croyez qu'on peut maintenant?
Oh bah oui, en plus, à l'époque, ça produisait un tas de poésie quand même.
Oui. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. Un tas, oui. Oui. Patrice Comont,
oui. Oui, c'est magnifique, ce rapport à Ronsard.
Oui.
Qui, c'est la mater dolo rosa et à la rose.
Ah, oui. La mater dolo dolo rosa.
Oui, c'est magnifique.
Oui, c'est vrai qu'il y a quand même un monde entre ces deux extraits. Évidemment, avec Hervé Le Tellier, on est dans la comptine enfantine. C'est charmant.
Ça commence par une romance et ça finit parfois par un gigot dominical.
Enfin, j'insiste.
C'est la vie.
C'est la vie, oui. Surtout le gigot congelé avec lequel on peut tuer quelqu'un.
Ah non,
oui.
Ah,
célèbre nouvelle policière.
Personnellement, le gigot congelé, non.
Ah, non, oui, jamais. Je suis d'accord, c'est pas possible.
Oui, non, mais quand vous êtes invité à dîner chez Hervé Le Tellier, c'est comme ça que ça se passe.
Mais enfin, j'insiste.
Il
n'y
a jamais eu de plainte. C'est la première fois.
Les gens sont polis, tu sais.
Les gens sont polis, oui.
Il y a tout de même une similitude, c'est que quand on ne déclare pas son amour et que l'autre s'en va fâcher, on peut dire c'est cuit.
Exactement, voilà. Oui. Ah oui,
même.
Oui.
Voilà. Drink, c'est
voilà. Cuit. Voilà. Voilà. Mais pas donc, trop, comme c'était on le pas, cas chez Hervé.
Elle n'est pas crue.
Voilà. Bon, on est aussi loin de l'un que de l'autre, Véronique Brindeau, avec votre dolo dolo. Enfin, c'est pas le vôtre, c'est le dolo dolo disons, japonais.
La couleur pourrait y être, mais la consistance, absolument pas.
Absolument pas. On passe à une autre comptine, une autre chanson, Hervé Le Tellier, ou un petit bout de littérature.
Un petit bout de théâtre, oui. Puisque j'ai choisi un texte inédit de Tchekhov, oui. Qui s'appelle L'agneau.
Ah voilà. Oui.
Oui, c'est pas. Il a fait La Mouette après.
Oui, mais... exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est dans sa série, quoi.
Voilà, c'est dans sa série animalière. Oui. Sa série animalière, il a commencé par L'agneau.
Oui.
Et donc, j'ai demandé à Jeanne Carillon de jouer le rôle de Masha.
Voilà. Masha. Oh, c'est bien ça, c'est le rôle de votre vie.
Oui,
Jeanne.
Oui. Je vais décrire un petit peu la scène.
Oui, hein, s'il vous plaît.
Dans le salon d'hiver, d'où l'on voit le lac de Nevtchakov, Nicolas et Constantin prennent le thé en mangeant des gaufrettes. Dans la salle à manger voisine, la pendule sonne 4 fois et Masha,
oui.
Qui est la fille de Nikolai, essuie une coupe de champagne qui est ébréchée. Coupe à champagne ébréchée.
Ah oui.
Mon Dieu.
Elles font en larmes et se précipitent vers la cuisine. On entend à nouveau.
Mon Dieu.
Nikolai. Tenez, Constantin, à propos, l'autre jour, j'ai revu ce vieux fou de Miedzenko. Vous savez ce qu'il m'a raconté au sujet du chemin de fer? À Moscou, eh bien, ils l'ont, le chemin de fer. Une locomotive à vapeur, tout en fer, n'est-ce pas formidable? Masha entre dans la pièce en courant.
Père!
Elle pleure.
Le gigot est dolo dolo. Et en plus, nous n'en avons plus. Nous avons vendu la bergerie.
Voilà, c'est un petit extrait.
Ah, c'est le drame. Ah oui, c'est oui, oui, oui.
C'est tragique.
C'est tragique. Mais... c'est pas la cerisée, mais... Oui.
Voilà,
oui,
voilà. C'est... Après, ils ont vendu la cerisée, ça va de mal en pis dans leur famille.
Oui.
Ils ont commencé par la bergerie. Bon, voilà.
Oui, 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 bien sûr.
Et à la fin, Masha devient folle et elle chante « Je suis un agneau ». Enfin, c'est
évidemment. Je ne savais pas qu'à l'époque, on congelait déjà.
Bah, attendez, c'est quand même...
Dans ces régions-là.
C'est quand même une région où on congèle naturellement, franchement.
Excusez-moi,
ça se congèle tout seul. On met l'agneau dehors et c'est fini. Il est congelé.
Véronique, non, on ne se rapproche pas, hein, ce n'est pas possible.
Alors, on s'éloigne, si on s'éloigne de la cuisine pour se rapprocher du chemin de fer, là, on s'approche.
Ah,
ah oui.
Ce serait peut-être un bruit. Tchou. On ne sait jamais. Dominique Muller, deuxième extrait de littérature
oui, alors
que
ce
j'avais
chemin
trouvé.
De fer, nous allons le prendre pour aller en Espagne, parce que ce sont des paroles de Meillac et Alévi pour Carmen.
Ah,
une
oui.
Première version, c'est la Habanera, la célèbre Habanera, où Carmen n'est plus timide qu'elle ne le sera dans la version définitive.
Oui.
L'amour dolo dolo m'appelle pour Don José apprivoisé. J'ai trop roulé cigare et pelle, mes lèvres je vais lui refuser.
L'amour est enfant du dilemme. Je vais ramer, ramer à quel émoi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Dolo, dolo, je resterai de bois. Dolo, dolo, si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Dolo, dolo, mais si je t'aime, si je t'aime, ça se voit pas.
Ah, c'est plus rigolo que la version finale, effectivement.
C'est un autre personnage.
Et ce qui est très joli, quand même, c'est « L'amour est enfant de dilemme ».
Ah bah oui.
Très, très belle parole, ça. C'est pas faux. En plus. Bon, alors, Dolo Dolo, Carmen, non. Proximité ou pas?
Eh bien, dans la Habanera, il y a donc on roule ses cigares, c'est ça?
Oui.
Alors là, de ce côté-là aussi, d'un roulement, peut-être, on se rapprocherait.
Ah, mais elle est très intuitive, Dominique Muller.
Et comment
Hervé Le Tellier, vous avez autre chose à nous lire?
Oui, j'ai un petit extrait de Marguerite Duras.
Ah, très bien.
Un petit texte qui n'est pas très connu, qui s'appelle « Cuir, dit-elle ».
Cuir, dit-elle. Ah oui. C'est dans sa correspondance, peut-être, non?
Si ça correspond, je ne sais pas à quoi. Ça cuirait. L'odeur, ça le dirait que ça cuirait. Elle regarderait dans le four allumé et elle verrait que la lumière dedans, elle aussi, était allumée. Le temps, il passerait, oui, il passerait. Et lorsqu'elle ouvrirait le four, après qu'il aurait passé le temps, elle saurait tout de suite pour le gigot, oui, tout de suite, elle le saurait. À l'odeur, à la couleur aussi. Il dirait, lui, tu n'as rien vu sur le temps de cuisson. Rien, tu n'as rien vu. C'est ça qu'il dirait, lui. Le gigot, lui, il ne dirait rien. Il serait juste dolo dolo. Oui, dolo dolo.
C'est beau, mais...
Je crois que c'est...
Et Minuit ne l'a pas publié, c'est un inédit.
Bah oui, Minuit ne l'a pas publié, parce que ça s'arrête, théoriquement, ça devait s'arrêter à 11h, la cuisson. Et donc, c'était quand même un aveu d'échec.
Ah oui, non, mais je suis ravie que vous l'ayez réservé pour les papous dans la tête, quand même. Véronique, non, toujours loin. Même avec Duras, on ne se rapproche pas.
C'est-à-dire, le gigot est toujours dans le même état.
Exactement, oui, c'est vrai. Il y a peu d'évolution au niveau du gigot.
Ça fait 3 gigots de suite déjà qu'on crame. Il reste une patte.
Évidemment, le style de chacun des écrivains est différent, mais le gigot reste congelé, décongelé, on ne sait pas trop. Enfin, il y a toujours l'erreur initiale de la congélation. Dominique Muller, vous avez encore un dernier extrait. De qui?
De Stendhal. Ça lui va comme un gant.
Comme un gant.
Dans Armance, premier chapitre. Oui. Tristesse mécontente. Frappée des longueurs qu'elle observait chez Octave, Armance redoutait pour lui une affection de poitrine. Mais elle pensait que si elle avait le malheur de deviner juste, nommer ce bolo-bolo, ce serait hâter cette maladie qui caractérise les jeunes gens de son rang. C'est tout au début, c'est toujours la même histoire.
Oui,
Armand, c'est très éprise d'Octave. C'est une gourde, il l'aime et il est attiré par une autre. Enfin, voilà,
Le
dolo-dolo parfait. Oui.
Ah, c'est joli. Il y a vraiment un gouffre entre vous deux, Hervé Le Tellier et Dominique Muller.
Oui, un petit gouffre, c'est pas très grave.
C'est charmant comme expression. Voilà. Alors, Véronique Brindeau, on a deux versions de dolo-dolo et je suis sûre qu'avec vous, on en a une troisième.
À vrai dire, entre le gigot qui n'a plus son état de perfection attendu, et cet amour qui est dans une confusion de sentiments totale, il y a quelque chose comme une absence qui pourrait aussi, l'absence redoutée, un être absent et redouté qui peut, en cherchant bien, se retrouver dans le dolo-dolo.
Ah oui.
Mais au théâtre seulement.
Ah bon, oui. Alors ça veut dire quoi, dolo-dolo?
Alors dolo-dolo, c'est le bruit, un bruit grave et continu, un grondement, un bruit de tonnerre, qui peut aussi être quelque chose de lointain, le bruit du canon.
Alors le train de tout à l'heure.
Le train au loin.
Oui, bien sûr.
Ou bien un roulement de tambour, par exemple. Et au théâtre Kabuki, on accompagne du motif qui porte très exactement ce nom de dolo-dolo, l'arrivée des fantômes qui surgissent par des trappes ménagées dans le plancher.
Ah d'accord, donc dolo-dolo a un petit quelque chose d'inquiétant.
Eh bien, c'est quelque chose qui est lointain comme un fantôme, par exemple.
Oui, mais on ne sait pas très bien ce qui va arriver.
Effective, mais pendant tout le temps où il apparaît sur la scène, on accompagne son arrivée d'un dolo-dolo, donc d'un roulement de tambour. Et dolo-dolo peut aussi avoir le sens de quelque chose qui est pâteux, boueux, visqueux, collant, qui adhère assez lourdement. Et j'ai trouvé dans un roman qui est écrit dans les années 1810, un roman très populaire qui s'appelle Ukiyo-buro et qui n'est pas fait à partir de conversations de comptoir, mais à partir de conversations de bain public.
Ah oui?
Oui. Cette notation... Shiratama o ichidoki ni ireta node, ichimen ni dorodoro shite ikko hashi ni mo kakarazu. Comme on avait mis toutes les boulettes en une seule fois, le bouillon ressemblait à de la soupe et pas moyen de les attraper avec des baguettes.
Ah, mais il y a le côté culinaire, quand même. Hein.
Mais pas calciné, vous voyez.
Non, évidemment, non, pas calciné, ça c'est l'erreur.
Ce dorodoro pourrait donc avoir un caractère un peu sombre et négatif.
Oui, c'est vrai.
Surtout dans son emploi culinaire.
Bien sûr.
Mais chez Tanizaki, on trouve dans l'éloge de l'ombre un passage dans lequel il précise à quel point la nourriture japonaise fait alliance avec la lumière présente dans une pièce et avec la qualité des plats dans lesquels elle est servie, dans sa couleur et bien entendu dans l'éclairage qui est présent dans la pièce. Et il dit ceci: Watashi wa aru chakai ni yobarete miso hiru o dasareta koto ga atta ga itsumo wa nandemo naku tabeteita ano dorodoro no akatsuchiro o shita hiru ga obotsukanai rousoku no akari no shita de chitsu ni fukami no aru umasou na iro o shiteiru no de atta. Il m'est arrivé un jour, quand vient une réunion de thé, de m'y voir présenter du miso. Donc c'est la soupe de miso. Et cette soupe bourbeuse, couleur d'argile, que j'avais toujours consommée sans y prêter attention, je lui découvris soudain à la lueur diffuse des chandelles une réelle profondeur et une teinte des plus appétissantes.
Oh, bah vous voyez, donc c'est bon quand même.
Bah oui.
Il suffit de changer l'éclairage de la cuisine.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion sur dolo-dolo, Véronique Brindeau? Est-ce que d'abord c'est une expression onomatopéique extrêmement employée et qu'on retrouve beaucoup dans la littérature?
En tout cas,
là, vous nous avez donné deux exemples. Mais...
On la trouve au théâtre, bien entendu, beaucoup, puisque c'est effectivement un son. Mais comme ce son, il est aussi associé à l'image de quelque chose qui n'existe pas, mais qui peut être vaguement inquiétant, je trouve qu'on a là typiquement un de ces mots qui permettent de glisser d'une sensation à une autre, une sensation sonore, par exemple, à une impression plus vague, plus diffuse, qui, à chaque fois qu'on va répéter l'expérience de ce son, par exemple, va migrer un peu vers une représentation, par exemple, d'un spectre ou quelque chose de fantomatique.
Bon, c'est bien. Je ne sais pas si on aura souvent l'occasion de se servir de l'eau de l'eau, mais on l'emporte, on le garde. Des papouilles dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressard avec Anne de Pelchin et Pierre Mine. À télécharger sur franceculture.fr, rubrique podcast pendant un an. À réécouter pendant 1000 jours à la page des papous sur laquelle vous pouvez poster vos remarques, questions, suggestions, rubrique commentaires. Et puis n'oubliez pas de vous promener dans nos pages livres des papous et vie du club pour glaner des infos sur les livres, expos et autres de notre petite bande et nos soirées papous en public. On se retrouve dimanche à 12h45 pour un nouveau numéro. Pour l'heure, je vous laisse en compagnie d'Antoine Perrault. C'est Tire ta langue dans quelques instants. Passez un très bel après-midi sur France Culture.